Lundi 15 avril, sur l'île Seguin, à Boulogne-Billancourt, près de Paris.
Vous écoutez Café Conso. Olivier Dauvert partage un café avec une personnalité de la Conso. Aujourd'hui, Miloud Benahouda, président d'Europe de l'Ouest chez Barilla Group.
Bonjour, j'ai rendez-vous avec Miloud Benahouda, s'il vous plaît.
Bonjour Miloud.
Bonjour.
Tu es donc le grand patron de Barilla pour l'Europe de l'Ouest, donc pour la France aussi, si j'ai bien révisé ma géographie. Si j'ai bien compté, ça fait plus de 6 ans. Alors Barilla, ce sont des pâtes, mais aussi des biscuits, Mulino Bianco, les tartines Vasa et les pains de mie et brioche Harise. Juste comme ça, pour démarrer, le dernier produit de ta gamme que tu as acheté, c'est quoi ?
Alors, ça a été mon dernier lancement, mon pain rustique.
D'accord.
Qui est un lancement qu'on vient de faire là, sur le mois d'avril, qui est un produit riche en fibres, qui est une des innovations qu'on lance en ce moment.
Donc à la marque Harise.
À la marque Harise, absolument.
Je t'ai proposé de partager ce café conso pour deux raisons. Tu diriges une marque emblématique de la grande conso, donc ton regard et tes analyses sur ce petit monde m'intéressent, mais aussi parce que ton parcours peut être inspirant pour de jeunes commerciaux, puisque, justement, commercial, c'était ton premier job, chef de secteur chez Danone. On est en 95, tu sors de l'école de commerce de La Rochelle.
Ouais.
Qu'est-ce qui fait qu'un jeune diplômé d'une école de commerce commence chef de secteur ? Parce qu'il n'a pas trouvé chef de produit dans une vraie marque, ou parce qu'il a envie de se frotter au carrelage ?
Il avait très envie du carrelage et il n'a pas pensé au reste.
Ouais.
Moi, j'étais assez convaincu très tôt que l'agroalimentaire ou la grande conso, c'était l'univers dans lequel je voulais me retrouver. Et j'étais aussi assez convaincu que la case obligatoire, c'était le carrelage et commencer en tant que chef de secteur. Donc oui, j'ai terminé mon école un vendredi. Le lundi, je démarrais chez Danone, dans l'Est de la France, et j'ai commencé chef de secteur sur la partie eau.
Tu te rappelles de ton premier magasin visité, donc le lundi matin ?
Ouh.
Donc on est en 95, c'est ça ?
Non, alors je ne me souviens pas. Par contre, je vais même te dire un truc que j'ai poussé. C'est-à-dire que pendant mes 3 ans d'études, à chaque année, je devais faire un stage. Et j'ai fait tous mes stages étudiants, chef de secteur chez Danone. Donc avec mes profs qui en plus me disaient à cette époque-là qu'après le premier stage, ce serait bien d'aller voir ailleurs. Et moi, j'ai considéré que voilà, j'avais cette envie en tout cas. Et j'étais assez convaincu que c'était mon démarrage de carrière devait se faire par là. Et donc en plus, c'est qu'effectivement, j'ai fait tous mes stages étudiants, chef de secteur et comme tu dis, sur le carrelage.
Qu'est-ce qui t'intéressait dans le métier de chef de secteur ? D'aller prendre des roustes en magasin ? Parce que c'est un peu physique par moment quand même.
Ouais, alors je trouve que c'est une super école. Il y a effectivement un côté quand même qui était un peu conflictuel, au moins dans une partie des magasins où t'es pas toujours le bienvenu. Voilà, je trouve qu'il y avait un truc très concret autour des produits. Il y avait un truc très concret dans la vie des magasins qui sont la vie du... Ça fait partie du quotidien. Il y avait un côté négociation, un côté compétition, avec des évaluations, avec des objectifs, avec des primes. Et non, voilà, c'est ce à quoi je voulais me frotter. J'étais assez convaincu assez rapidement qu'une fois de plus, ce serait un bon point de départ et une belle école pour tout le reste. Donc je recommande une fois de plus, et je continue de le faire aujourd'hui, parce que tu as raison. Aujourd'hui, on voit beaucoup de nos jeunes qui, dès l'école, aspirent à des jobs de marketing ou trade marketing. Et je n'ai cesse d'insister pour leur dire que le passage obligatoire, c'est quand même le carrelage et le point de vente.
Est-ce que c'est le même métier chef de secteur aujourd'hui, 2024, qu'en 95?
Non,
c'est vieux, ça fait presque 30 ans.
Ouais,
Qu'est-ce qui a changé dans le métier ? Et en quoi est-il toujours indispensable aujourd'hui, à l'heure de la centralisation, des négociations très encadrées ? Il sert à quoi un chef de secteur aujourd'hui ?
Alors, ce qui a fondamentalement changé, c'est les outils. Moi, quand je raconte aux plus jeunes aujourd'hui le fait que tu n'avais pas de téléphone portable, tu n'avais pas de GPS, que tu avais une carte Michelin dans ta voiture avec des petits stickers pour repérer les magasins, tu avais des cartes téléphoniques donc pour appeler tes clients, tu les appelais dans une cabine sur le chemin. Voilà, je trouve qu'il est assez dingue, c'est l'évolution entre guillemets technologique des outils. Je ne me considère pas si vieux que ça, mais si moi je raconte mon métier de chef de secteur aujourd'hui à mes chefs de secteur actuels, ils ont l'impression de vivre un film de science-fiction. Après, l'importance du métier, elle est essentielle, et j'ai presque envie de te dire, elle est encore plus importante aujourd'hui. Derrière deux phénomènes. le développement des indépendants, le développement de la franchise. Le temps où, à l'époque, depuis une centrale, tu appuyais sur un bouton et puis le produit était disponible en magasin, à mon avis, il est fini. Donc j'ai envie de te dire que ce métier-là, il est encore plus important potentiellement aujourd'hui. Je le vois devenir de plus en plus important. Derrière la poussée d'indépendants, on a face à nous des entrepreneurs qui décident de leur assortiment, qui décident de leur plan merchandising, qui décident si oui ou non ils veulent rentrer cette innovation ou pas. Et dans les intégrer, ben, tout ce que tu entends derrière, effectivement, la franchise.
Tu es resté combien de temps chef de secteur ? Pas très longtemps, mais comme tu en avais fait avant, on considère que ça avait peut-être, je sais pas, 2 ans en tout.
Ouais.
Qu'est-ce qui t'a fait évoluer et vers quel poste et avec quelle logique ?
Alors ensuite, la logique, c'était que j'avais aussi un fort appétit pour avoir une expérience à l'international. Mmh. Et cette opportunité s'est présentée chez Danone, qui à mon époque ouvrait souhaitait ouvrir son premier bureau en Arabie Saoudite. Mmh. Et donc m'y a envoyé. Donc j'étais la première représentation physique de Danone à cette époque-là. D'ailleurs, pour l'anecdote, le bureau, c'était ma deuxième chambre à coucher. Donc, le télétravail, je l'ai connu bien avant. Donc voilà, il y avait cet appétit aussi pour une expérience à l'international. Et l'opportunité s'est présentée chez Danone et je l'ai prise. Alors, une fois de plus, pas le pays que tu imagines ou dont tu rêves, hein, qui était l'Arabie Saoudite.
Mais qu'est-ce que tu y faisais ? C'est-à-dire, c'est quoi ? Il faut vendre le produit à des supermarchés locaux ?
Non, alors c'est un accompagnement de distributeurs locaux.
Qui existait déjà.
Qui existait déjà. Alors, un, il y en avait beaucoup. Donc, deux, il y avait une notion de rationalisation du réseau de distribution. C'était très route to market, j'ai envie de dire. Et donc, après, c'est l'accompagnement, j'ai envie de dire, très qualitatif de ces distributeurs-là, qui était l'apport que tu pouvais avoir sur tes marques, sur tes produits, sur du merchandising, la vision catégorielle, donc qui était une valeur ajoutée que tu ramenais du groupe et que tu leur transmettais. Donc, voilà, après, c'était une expansion géographique. Avec des marques, à l'époque c'était l'ancien Danone, hein, c'est-à-dire qu'il y avait Lu, il y avait Panzani d'ailleurs, il y avait toutes ces marques-là. Et donc oui, non, c'était, j'ai envie de dire, un peu pionnier et ouvrir la porte de marché un peu inconnu pour qu'ensuite, et l'étape d'après d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'ensuite Danone s'y est structuré avec une acquisition locale, avec un siège local. Mais voilà, t'es un peu le... Comment dirais-je, celui qui défriche. Et j'ai fait ça pendant 3 ans pour Danone.
Avant de partir pour Barilla.
Pour Barilla.
98.
Voilà. Et donc je fais à peu près la même chose. Donc pareil, Barilla qui ouvre sa première représentation physique à l'époque, donc au Moyen-Orient. Et là, c'est à Beyrouth. Et c'est une vision Moyen-Orient et Afrique. Donc là, ça va... ce qui était drôle, j'ai envie de dire, c'est l'étendue de pays. J'ai fait tous ces pays-là. Je suis allé dans des endroits un peu exotiques. Et là, on est même au stade de faire découvrir les pâtes à cette époque-là ou faire découvrir, une fois de plus, la marque Barilla qui, il y a 25 ans, n'était pas le Barilla qu'on connaît aujourd'hui.
Et comment on arrive, en à peu près une vingtaine d'années, de défricheur au Moyen-Orient à patron de Barilla pour l'Europe de l'Ouest?
Bah alors après, voilà, donc après j'avais considéré que j'avais fait mon chemin entre guillemets au Moyen-Orient, donc j'avais passé 7 ans et je voulais rentrer à la maison.
En l'occurrence en France.
En France, bien. Voilà, et puis maman aussi dit faut rentrer maintenant, ça suffit les bêtises. Et donc là, j'accepte de rentrer, et donc c'était le Barilla France d'avant la fusion aussi, et pareil, toujours passionné des univers de négociation, donc j'ai fait compte clé. Donc j'ai fait tous les métiers de négociation, de compte clé à directeur des clients nationaux, à directeur commercial. Et ensuite, Barilla a considéré que je devais avoir une première expérience de direction générale dans une zone de moindre ampleur que la zone Europe de l'Ouest. Et là, pareil, on décide de m'envoyer à Stockholm. Donc c'est mon premier poste de DG, où je m'occupe des pays nordiques. Et nous, les pays nordiques, c'est assez important, notamment à cause de la marque Vasa. Donc voilà, je fais 3 ans dans les pays nordiques. On va considérer que j'aurais fait mes preuves pour faire en sorte qu'ensuite, effectivement, quand le poste s'est libéré sur la région Europe de l'Ouest et la France, on m'a demandé de rentrer. Et voilà, j'occupe ce poste-là maintenant depuis une dizaine d'années.
Si tu devais donner 2-3 tips à un jeune diplômé pour jalonner le chemin de jeune diplômé précisément, un patron d'une marque ou de plusieurs marques, est-ce que c'est que le talent et le travail ou il y a quand même de la chance à un moment donné dans le parcours qui fait que...
Alors, quand je regarde mon parcours, cette expérience terrain-là, je la trouve extrêmement fondatrice pour la bonne compréhension d'univers de la grande conso est essentiel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, quand les opportunités se présentent, on y va. On se pose pas beaucoup de questions. Moi, voilà, quand on me dit qu'il faut aller en Arabie Saoudite, ça faisait pas partie de mes plans. J'y suis allé. Voilà. Pareil, les pays nordiques et la Suède, ça s'est fait en 15 minutes avec mon patron en me disant « tu pars lundi à Stockholm ». On se pose pas, on pose pas beaucoup de questions. Donc quand les opportunités se présentent, en tout cas, pas se poser beaucoup de questions et aller les prendre. Après, non, moi, mon parcours, j'ai envie de dire, je dis toujours, il y a deux recettes. Un, oui, beaucoup de travail et sûrement plus que les autres. Et deux, il y a du comportement et la manière dont on se comporte, ça finit toujours par payer. Voilà ce qui aura potentiellement caractérisé mon parcours. C'est-à-dire que moi, j'ai des fois été entouré avec des gens que j'ai trouvé toujours beaucoup plus intelligents que moi, mais l'opportunité s'est présentée à moi. Donc je pense qu'il y a un mix à la fois de comportement et de manière d'être, et bien sûr de travail, parce que voilà, faut en faire un peu plus que les autres si on a un peu d'aspiration à évoluer. Je pense que ce sera ça, ouais.
Donc aujourd'hui, tu es président de Barilla pour l'Europe de l'Ouest, donc pour la France. C'est quoi le job de président de Barilla pour l'Europe de l'Ouest? Déjà, ça va d'où à où?
Ouais.
J'imagine de Brest jusqu'à quelque part à l'Est,
ouais.
Mais je ne vois pas bien où.
Non, alors moi, j'ai donc la responsabilité de la France. Après, j'ai le Benelux, donc il y a la Belgique, le Hollande et le Luxembourg. Et après, plus au sud, j'ai l'Espagne et le Portugal. La responsabilité de... je trouve que la définition de mon job, elle a évolué dans le temps. Plus récemment, si je regarde les dernières évolutions... j'aurais envie de dire que mon job, ouais, il se résume à beaucoup protéger mon entreprise et assurer son futur. Voilà les deux obsessions du moment.
On peut rester sur ces deux mots-là parce que c'est protéger.
Ouais.
Ça veut dire quoi, protéger? Parce que les marques ou les entreprises sont menacées?
Non, parce que je trouve qu'elles sont souvent trop attaquées. Je partirais de l'industrie agroalimentaire. Je trouve qu'il y a une démagogie quand même là-dessus, sur ce sujet-là. Alors moi, je cite toujours en exemple la période, j'ai envie de dire, que je considérais fantastique en la matière. Malheureusement, c'était la période Covid. La période Covid où on s'est rappelé ô combien notre rôle était important dans la société pour l'équilibre social, qui était de nourrir les gens.
Et même des pâtes étaient presque un produit de luxe.
Et voilà, j'ai vu des gens, enfin voilà, moi j'avais un peu l'impression des fois qu'on vendait, on courait après les produits. Donc, et même pour moi en tant que dirigeant et pour nous tous d'ailleurs, tous les salariés, tous les collaborateurs, à ce moment-là on s'est rappelé, on s'est dit, bah tiens, finalement on fait quand même un job vachement sympa, on nourrit les gens et nourrir les gens c'est quand même contribuer aussi à l'équilibre de la société. Alors bien sûr de manière saine, sûre et durable.
Donc tu trouves que les attaques sont injustes?
Ouais, je trouve
que... Et est-ce que sur certains sujets... l'industrie agroalimentaire ne prête quand même pas le flanc?
Une fois plus, on aura... L'industrie agroalimentaire, c'est 17 000 entreprises en France. Que tu en aies 5, 6, 7 ou une dizaine qui potentiellement ne se comporteraient pas, une fois de plus, comme l'attend la société, potentiellement. Mais après, jeter l'opprobre sur l'ensemble de l'industrie, ça, je trouve ça assez agaçant, parce que moi, je trouve que c'est une très belle industrie, c'est la première industrie de ce pays, elle a un rôle sociétal vachement important. Moi, j'adore le métier qu'on fait. Et vraiment, on se lève tous les matins en se disant « ouais, on a une responsabilité ».
Mais est-ce que la chasse aux coûts qui caractérise l'époque, les demandes des distributeurs et donc par ricochet le travail des industriels, elle n'a pas conduit l'industrie agroalimentaire à des pratiques? On ne va même pas parler des autres, on va prendre une brioche à riz.
Ouais.
Dedans, il y a du sirop de glucose fructose.
Ouais.
Il n'y a pas que du sucre.
Ouais.
C'est typiquement pour baisser les coûts.
C'est des problèmes.
Et ce n'est pas honteux, c'est un constat. Est-ce que quand on fait ça, alors que à peu près tous les nutritionnistes sont assez d'accord pour dire que ce n'est pas un bon ingrédient, toute l'industrie le fait?
Voilà.
Vous prêtez le flanc?
Non, alors tu vois, c'est exactement la manière dont on lit les choses. Mais en même temps, on n'a pas lu le fait qu'on a baissé la teneur en sucre de nos produits de 30%. Y a toujours, je trouve, un truc où on pointe potentiellement ce que moi j'appellerais nos axes d'amélioration. Et effectivement, il faut continuer de travailler dans cette direction-là, qui est toujours moins de sel, moins de sucre, moins de gras. Mais en même temps, il y a plein de choses qui sont faites en parallèle. Tu vois, là, on lance effectivement, pareil, au moment où on se parle, une brioche à partager moins de sucre, qui est un Nutri-Score B dans un univers de viennoiserie. Donc oui, il y a toujours une démarche d'amélioration, et bien sûr qu'il faut qu'on aille plus vite sur un certain nombre de sujets. Mais voilà, je trouve qu'on insiste beaucoup plus sur cette partie-là, pas assez potentiellement sur toutes les démarches vertueuses qui sont entreprises par beaucoup. Nous, oui, on est engagé dans ces démarches-là et on l'est depuis très longtemps, mais on n'est pas les seuls. Donc ouais, je trouve qu'il y a un petit un petit déséquilibre de ce point de vue-là.
Donc, premier verbe que tu as utilisé, c'est protéger, ouais. pour définir ce qu'était ton métier de président. Ouais. Deuxième verbe, c'était développer.
Assurer la pérennité, ouais. La protéger. Bah ouais, parce que nous, moi je suis dans une boutique familiale. Hein. La seule obsession de mes propriétaires, mmh. c'est à quoi va ressembler l'entreprise dans 50 ans.
C'est vraiment ça.
C'est vraiment ça.
C'est vraiment 50 ans.
Ouais, mais encore, ça va même plus, hein, c'est 140. C'est des gens qui sont complètement... Maintenant, ils sont à la quatrième génération, ils sont complètement obsédés par l'idée de transmission. Voilà, moi, si je croise aujourd'hui M. Barilla, comment je termine l'année, ça ne l'intéresse pas.
C'est vrai ?
Ouais, par contre, à quoi va ressembler Barilla dans 10 ans en France, ça l'intéresse.
Mais tu as des bonus, c'était objectivé à titre perso,
ouais.
sur la performance
ouais.
annuelle de l'entreprise,
ouais.
quand même.
Ouais. Ben moi, ma plus grosse zone de pression que j'ai hiérarchiquement, c'est le fait que je n'investis pas suffisamment. Parce que c'est des gens qui sont convaincus que l'investissement est absolument nécessaire, et sans cet investissement-là, on n'assurera pas la pérennité de notre entreprise. Donc nous, j'ai presque envie de te dire, au-delà d'objectifs de profitabilité, et je ne vais pas te dire qu'on est une ONG, hein, mais on lit les deux. C'est profitabilité pour investir, et j'ai envie de dire encore avec un stress encore plus fort que précédemment. Les enjeux sont tels et les besoins d'investissement sur tous les piliers du business model qu'est le nôtre sont immenses. Donc voilà, c'est un peu, comme on dit, l'œuf, la poule. Et je trouve que c'est ce qu'on oublie. Pour assurer une fois de plus cette alimentation qui soit saine, sûre et durable, pour améliorer mes recettes, faut que j'investisse dans mes usines. Pour soutenir la consommation et les catégories, il faut que tu investisses derrière tes marques. On est face à des transformations, une transformation qui s'appelle une transformation digitale. On a forcément une transformation liée à notre empreinte carbone et la réduction des empreintes carbone. Donc, je trouve que voilà, mon job au quotidien, c'est, je sais que ça, sans ça, je ne ferais pas.
Alors, tu as évoqué cette idée de très long terme qu'on te donne comme échelle de temps. Est-ce qu'aujourd'hui, tu accepterais d'être président d'une entreprise cotée en bourse ou d'une entreprise qui vient d'être rachetée par un fonds? Parce que, pour le coup, les échelles de temps, et tu le sais,
t'es
pas naïf,
sont pas les mêmes.
Ne seraient pas les mêmes.
Ouais.
Est-ce que tu mesures le confort au point que tu te dis « je vais pas postuler pour une boîte cotée en bourse » ?
Alors, j'ai jamais, et ça fait 25 ans que je suis chez Barilla, et effectivement, par moments, certains m'ont dit ce serait bien dans ta carrière que tu aies cette expérience. Moi, je ne crois pas. Une fois plus, je crois fondamentalement à un modèle économique, ce que j'appellerais du capitalisme familial, qui est dans cette projection dans le temps, et qui après connecte aussi avec des valeurs qui me sont très personnelles. Aujourd'hui, non, je n'éprouve pas le besoin d'avoir une expérience dans un modèle, on va dire, boursier ou autre.
Donc, pour te mettre en porte-à-faux, là, tout de suite, t'es plutôt Auchan que Carrefour.
Je répondrai pas à la question. Mais c'est pas moi qui le dis, hein, les entreprises les plus performantes dans la durée, aujourd'hui, sont beaucoup des entreprises familiales. Et j'en vois, oui, tous les bénéfices. Enfin, je suis pas le seul, tous nos salariés, on voit tous les bénéfices et les avantages.
Mais en tant que président, tu mesures le confort que tu as d'une forme de pression moins pressante, j'allais dire.
Oui, absolument. Mais après, j'aurai une pression qui est différente, qui est celle, effectivement, et cette capacité de projeter dans le temps. Mmh. J'ai envie de te dire, si tu es dans un private equity ou peut-être avec une vision un plus court, que tu travailles à 10 ans, on s'en fout. Ici, chez moi, ton travail à 10 ans, il est extrêmement important. Et il va prendre le dessus sur, peut-être des initiatives ou des actions qui sont beaucoup plus court-termistes. Ouais.
Que pèse Barilla, la marque, dans le groupe Barilla ?
La moitié, globalement.
Et en France aussi ?
La moitié en Harris, non. En France, c'est plutôt un tiers. Et c'est deux tiers Harris. Donc, effectivement, on est plutôt connus, nous, avec la marque Barilla, mais on a tendance à oublier. Donc, la moitié du chiffre d'affaires, globalement, du groupe, il est fait sur les métiers, les métiers de la boulangerie.
C'est 800 millions pour la France, le chiffre d'affaires.
Voilà, c'est 800 millions. Ouais, c'est ça. Et 4,7 milliards pour le groupe. On a une activité de boulangerie qui est plutôt assez performante au sein du groupe, avec une approche qui est un peu différente. Globalement, Barilla, on a pris notre pack bleu et on est un peu parti partout. Les métiers de la boulangerie, on les considère encore très locaux. Donc, c'est plutôt ce qu'on va appeler des champions locaux. Donc, Harris en France, on a Mulino Bianco en Italie, qui est la première marque de l'univers de l'agroalimentaire. Et puis, on a Vasa dans les pays nordiques. Donc, deux approches différentes.
Quand on est président de Barilla pour l'Europe de l'Ouest et que l'on parle de la marque Barilla, quel levier est-ce qu'on a ? Parce que tu ne vas pas changer le logo, tu ne vas pas t'occuper de marketing. Alors, de marketing opérationnel peut-être, mais pas de marketing strat. Est-ce que ce n'est pas frustrant d'être le patron d'une marque sans avoir ce levier qui fait rêver à peu près tout le monde.
Ouais. Non, alors tu as absolument raison. Alors moi, le bonheur de mon job, c'est d'avoir ces deux marques que sont Barilla et Harris. Et tu as absolument raison sur la marque Barilla. Peu d'input de ma part. Et pour le coup, sur Harris, tu drives tous les leviers du mix. Mais toi, moi, je le vis bien. Dans le sens où, une fois plus, nous, notre objectif, c'est l'icône de la gastronomie italienne. Qui sont les experts de la gastronomie italienne, si ce n'est mes collègues basés au siège en Italie? C'est quoi mon input, moi, local, pour prétendre, effectivement, je dirais, modifier un des éléments du mix? Donc, oui, c'est vrai, on a deux approches totalement différentes, avec la marque Barilla, qui est plutôt pilotée de manière assez globale, voire européenne, on va dire, Harris, de manière très locale. Mais très honnêtement, je vis ça bien. Parce que voilà, je trouve qu'il y a une vraie expertise quand tu as pour prétention, une fois de plus, d'être l'icône de la gastronomie italienne. C'est bien par là-bas que ça vient, quoi.
Comme sur beaucoup de catégories, sur les pâtes, la première marque, ce sont les marques de distributeurs.
Ouais, absolument.
C'est ni Panzani, ni Barilla.
Absolument.
C'est l'échec des marques?
Non, pas de notre point de vue, parce que nous, on aura quand même fait un travail de fond sur cette catégorie où je pense que, si tu regardes historiquement, il y a 20-25 ans, c'était une catégorie où, globalement, tu vendais de la coquillette, des macaronis et des nouilles. Je trouve que pour une catégorie aussi basique, on a réussi à lui donner de la valeur et parenthèse, à la premiumiser. Voilà, nous, on ne se considère pas en confrontation directe avec la marque distributeur. On considère qu'on fait deux métiers différents et, une fois plus... voilà, on a pour objectif d'apporter cette gastronomie italienne sur le marché français, ce qu'on fait depuis 25 ans de manière cohérente, à la fois dans la manière de consommer. Voilà, on a amené des concepts comme le plat de pâtes à l'italienne quand il fut un temps, les pâtes c'était qu'un accompagnement, on a amené le concept du al dente, on a amené tous les dessins qu'on connaît aujourd'hui, d'une trophée à une linguine. C'est des choses que Barilla aura apporté sur le marché français.
Mais tu parlais de la coquillette, ouais, comme étant l'emblème de, ouais, de la banalité, ouais, parce que des pâtes ou des nouilles. Ouais. Si je te mets une nouille fine Panzani ou une coquillette, tiens, ouais, encore plus standard, une coquillette Panzani, une coquillette Barilla et une coquillette MDD, est-ce que tu es sûr qu'avec la même quantité de beurre, à l'intérieur, je te les fais déguster à l'aveugle, tu les retrouves?
Je les retrouve, oui.
Ah, t'es sûr de
ça? Je pense que je peux retrouver, ouais. Alors, il y a des... Alors, sur nous, sur le métier des pâtes, donc un, c'est ton blé dur qui détermine la qualité de tes pâtes. Donc, tu peux avoir des inconsistances, notamment chez nos confrères. Nous, justement, ce qu'on a toujours... Tu vois, on n'a jamais prétendu être la meilleure pâte, mais en tout cas, on garantit une consistance de qualité dans le temps. Mais oui, je devrais être capable de faire ça.
Tu sais que je parle tous les matins, ouais, à de nombreuses ménagères, hein, sur RTL, ouais, et sur M6. Donne-moi une façon de leur expliquer que quand elles achètent des pâtes, une coquillette Barilla, je ne parle pas d'imaginaire, je, ouais, parle de réalité, sera différente dans son assiette. Qu'est-ce que je dois lui expliquer? Il faut qu'elle regarde quoi?
Alors, l'élément principal, c'est la qualité de ton blé dur.
Oui, mais elle ne s'en rend pas compte.
Bah non, mais si, alors il y a un élément pour le vérifier. En pack, c'est le pourcentage de protéines qui détermine la qualité de ton blé dur. Donc, plus le niveau de protéines est élevé, plus tu auras affaire à un blé de meilleure qualité. Donc, le premier point, il va être là. Il va être très clairement sur la qualité de ta matière première. Donc, le consommateur lambda, petite indication, ouais, regardez au dos du pack, les niveaux de protéines.
Mais ça fait le goût, ça?
Alors, ça fait pas. Ça va contribuer au goût, mais ça ne suffit pas. Après, il y a bien sûr aussi tout ton travail de process, où là, les process des uns et des autres sont fondamentalement différents, avec une maîtrise potentiellement qui est différente.
Mais c'est quoi la différence entre la fabrication d'une coquillette chez X ou chez Y? Je ne parle même pas de Panzani, de Barilla ou de MDD. Là. Sur quoi on joue?
Alors, on va jouer sur les temps de séchage, plus ou moins longs. Donc, plus long, tu auras une pâte, une fois plus, qui va mieux se tenir et qui est de meilleure qualité. La tension que tu auras dans tes process de qualité et tes contrôles qualité, chez Barilla on est un peu psychopathe des contrôles de qualité, hein. C'est plus de 2 millions de contrôles qui sont faits par an, qui vont, enfin c'est un contrôle à l'œil, c'est des tests en aveugle, c'est des tests conso. Donc après ce que font mes confrères les uns et les autres, je ne sais pas, je peux dire ce que nous on fait. Il y a une obsession sur la qualité de ta matière première parce que c'est l'essentiel va se jouer là et ensuite dans le process et tous les process de contrôle et de qualité de suivi que tu vas avoir dans ton quotidien.
Revenons sur la position des marques sur ce marché. Est-ce que les marques sont trop chères?
Absolument pas.
Le contraire m'aurait quand même étonné.
Non, mais je veux dire pourquoi. Mais... voilà, on vend un paquet de pâtes à 1,05€ et même certains à 0,97€.
Fais 500 grammes.
Les 500 grammes où 4 personnes peuvent manger de manière, j'ai envie de dire, en plus équilibrée et fun. Donc non, moi je te regarde droit dans les yeux et je considère qu'effectivement le prix de nos produits n'est pas cher. Et que voilà, si tu prends moi un paquet de pâtes et un paquet de sauce, allez, on va dire à 3€, il y a 4 personnes qui peuvent avoir un dîner à peu près sympa, de manière équilibrée, qui plus est bon pour la planète. Donc non, je ne pense pas que ce soit cher sur le marché des pâtes.
L'un des reproches qu'on fait à l'industrie agroalimentaire et à la distribution, c'est que les prix augmentent tout de suite quand il y a de l'inflation sur les matières premières, et baissent pas ou trop lentement quand il y a de la, quand il y a de la déflation. Je me suis amusé à regarder le prix Barilla et le prix du blé dur. Il y a 2 ans, 1 kilo de Barilla, c'était 1,80€. Le blé dur était à plus de 400€ la tonne. Aujourd'hui, le blé dur est descendu à 300€ la tonne. Et les pâtes Barilla, elles sont à 2,10€, donc plus cher qu'il y a 2 ans.
Alors,
est-ce que le client peut comprendre ça?
Non, alors...
Ou est-ce que c'est mes chiffres qui sont
alors,
pas bons?
Voilà, j'allais te dire, le chiffre n'est pas bon. Et c'est là, tu vois, c'est le truc où, oui, forcément, quand le sujet de l'inflation était là, on a été vachement pointé du doigt. Et d'ailleurs, presque les pâtes alimentaires étaient devenues l'icône de l'inflation, qui a contribué comme d'autres. Alors qu'il fut un temps, c'était la baguette. Je me souviens qui mesurait le niveau d'inflation en France. Donc, très bien. Mais on les a baissés dès le mois de juillet. Dès le mois de juillet, le prix de nos... on a baissé le prix de 60 références dans notre portefeuille entre 6 et 8%. Par contre, je peux te dire, quand on a baissé les prix, comme par hasard, personne ne l'a vu. Mais c'est une réalité, nos prix ont baissé entre 6 et 8% depuis. Parce que...
Mais qu'est-ce qui est faux dans les deux chiffres d'aujourd'hui que je t'ai donnés?
Le fait que je n'ai pas baissé mes prix en rayon, si mes prix ont baissé en rayon.
Oui, mais ils sont plus chers qu'il y a 2 ans, alors que le blé dur, il a perdu 100€ la tonne.
Oui, mais le blé dur, il y a 2 ans, il était à 280€. C'est ça aussi l'autre point, c'est-à-dire qu'aujourd'hui sur un marché de céréales, et globalement tu as la même situation, que ce soit sur le blé dur ou le blé tendre, on est parti, alors je prends le blé dur, il était effectivement 280, tu as raison, c'est monté jusqu'à 550€, au pire de la crise.
J'avais même pas pris l'extrême.
L'extrême, jusqu'à 550, et aujourd'hui il est plutôt autour de 320€. 320 par rapport aux 280, tu as toujours encore 25 à 30% d'inflation dans ta matière première, d'ailleurs que tu vas retrouver sur le blé tendre et sur le blé dur. Donc c'est cette inflation qu'on va retrouver aujourd'hui. Et là aussi, une boutique comme la nôtre, on a pris pour nous une grande partie de ces inflations. Nous, on a absorbé un quart des inflations dans nos résultats financiers, parce que là aussi, entreprise, j'ai envie de dire familiale, qui se dit « Ok, on fait un peu le dos rond, on revoit nos ambitions, période un peu tumultueuse, et ça ira mieux demain, parce qu'une crise, il y a un début, et puis il y a toujours une fin. Mais voilà, non, on est...
On va reprendre l'expression, hein. Donc à l'envers. En me regardant droit dans les yeux, tu ne gagnes pas plus d'argent aujourd'hui sur les pâtes qu'il y a 2 ans?
Non. Mes chiffres, mais 2023, nos résultats financiers sont moins bons qu'il y a 3 ans.
Alors
je te vois dans les yeux.
Je peux confirmer pour ceux qui nous écoutent.
Voilà.
Est-ce que les distributeurs ont répercuté la baisse de tarifs que tu leur as octroyée?
Oui, ils l'ont fait. Pas aussi vite qu'on aurait aimé, parce que là aussi, on a eu, y a les soucis de stock qui sont chez les uns et les autres qui font que.
Et c'est les systèmes informatiques, c'est
et voilà, donc globalement, ça c'est nous, on a baissé à partir du mois de juillet, ça a été rendu très visible, on va dire, au mois de septembre. On aurait aimé que ça aille plus vite, mais là, pareil, t'as des effets de stock qui ont fait que, mais oui, non, les baisses ont été répercutées.
Je voudrais qu'on élargisse.
Et j'ai envie de te dire, je peux me permettre, ces baisses, elles s'enclenchent aussi parce qu'il y a Egalim et parce que t'as des clauses de révision. Donc voilà, à la limite, si un temps soit peu, j'avais voulu garder mes baisses, comme on le dit, je ne peux pas le faire aujourd'hui, parce que c'est contractualisé. C'est contractualisé avec mes clients, on fixe un niveau de cours. Le jour où ça baisse, ça se révise de manière automatique, de la même manière que quand ça augmente, ça s'est révisé de manière automatique également.
C'est une légende urbaine de dire que les clauses de révision étaient écrites pour qu'elles ne se déclenchent pas, ou rarement?
Ce n'est pas le cas de mon entreprise. Nos clauses se sont bien enclenchées chez l'ensemble de nos clients et dès que la descente est apparue ou est rendue visible chez nous, donc je te dis au mois de juillet de l'année dernière.
Je voudrais qu'on élargisse un peu le propos à la conso dans son ensemble, mais qu'on tente quand même de resserrer les réponses en étant le plus direct possible. Première observation, les volumes régressent en grande distribution. Je parle de manière générale, pas que des pâtes. Donc ils régressent depuis la sortie du Covid. Est-ce que tu vois un mouvement durable qui, en gros, se diagnostiquerait autour de la fragmentation de la consommation et du fait que le circuit dominant, qu'est la grande distribution, perd petit à petit une partie de son assise au profit d'autres circuits plus petits, plus émergents.
Alors, je vais respecter ton expertise et je connais ton expertise sur le sujet. Moi, j'ai une lecture un petit peu différente.
Mais elle m'intéresse.
La première, je pense qu'on est rentré dans une période où on a un consommateur qui achète ce dont il a besoin et le temps de stockage, il est fini. On le voit bien, il y a les indicateurs avec des consos qui vont plus souvent en magasin, ils retournent avec une liste de courses, ils achètent ce dont ils ont besoin. Donc je pense que ça réduit un peu le camembert. Une catégorie comme les pâtes, oui, au moment où on se parle, la catégorie des pâtes est à moins 2. Tu m'aurais dit il y a 2 ans, dans un contexte inflationniste, est-ce que c'est la catégorie des pâtes qui va payer ? Non, j'aurais même espéré autre chose. Ok. Et je pense que le temps où tu sais, tu avais tes 6-5 paquets dans ta cuisine et tu étais content d'avoir une armoire pleine de pâtes, potentiellement celui-là il est révolu, mais je pense que ça s'applique sûrement aussi à d'autres catégories. Le deuxième, qui pour moi m'inquiète plus, et c'est là où je dis arrêtons la démagogie, je crains que le conso, il arbitre sur l'agroalimentaire et sur l'alimentaire. Moi, tu vois, je suis assez choqué. 2023, l'industrie du jeu vidéo fait une année record. La française des jeux fait une année record. Et l'alimentaire est en baisse.
Donc l'alimentaire, variable d'ajustement des budgets.
Variable d'ajustement des budgets. Qui est pour moi le signe le plus dangereux, d'ailleurs. Parce que voilà, on a tous intérêt à faire en sorte qu'une fois plus, les gens se nourrissent et se nourrissent correctement. Et voilà, je pense que... Alors, ce que j'arrive pas à me dire, est-ce que c'est un mauvais moment à passer ou est-ce que c'est structurel ?
Est-ce que l'éducation à l'alimentation est une solution ? Et est-ce que, par exemple, comme on l'a proposé avec le think tank des Échos, notamment, tu serais favorable à inscrire l'éducation à l'alimentation dans les programmes scolaires ?
Absolument.
Pas juste faire des opérations dans les écoles, hein,
absolument.
Mais pour que ça soit partout et pour tous,
absolument.
Dans le programme scolaire.
Absolument. Absolument. Et en deux, alors un des enjeux qui nous est propre, par exemple, à mon industrie et ma catégorie, il y a une inquiétude de ces plus jeunes qui ne cuisinent plus. Alors, un, je pense que d'un point de vue sociétal, et deux, si tu prends mon business et mes affaires, mais globalement, aujourd'hui, pour faire un plat de pâtes chez toi, allez, il faut consacrer 30 à 45 minutes entre, voilà, je fais bouillir mon eau, mes pâtes, je me fais une petite sauce et j'accompagne. On rentre dans une espèce de culture de l'immédiateté dans l'alimentaire que je trouve dangereuse, à la fois parce que, un, nutritionnellement, je ne suis pas sûr qu'on fait les bons choix, nous, on est assez convaincus que quand même se rassembler autour d'une table, ça fait partie d'un des moments sociétal qui est important dans la vie d'une famille et dans la vie de la société.
Mais qu'est-ce que tu attends pour lancer des plats cuisinés Barilla ?
Bah, je ne sais pas si c'est la solution, de la même manière. Est-ce qu'on répond à ce besoin d'immédiateté ? Pour l'instant, je n'y réponds pas. Bien sûr, on regarde le phénomène. Voilà, moi, je n'ai pas de cuisson rapide. On est plutôt aujourd'hui à faire le travail inverse d'éducation, qui est de dire prenez ce temps-là, partagez, et une fois plus avec 3-4 ingrédients et de manière très simple, on peut se faire un plat et un dîner super sympa, super équilibré et super versatile.
Donc,
pour l'instant, on est plus là-dessus.
Donc là, tu es en train de me répondre, je ne m'adapte pas au consommateur, je vais faire en sorte que le consommateur s'adapte à mes problèmes, que ça prend du temps. Quand tu lances une catégorie comme Albronzo,
ouais,
c'est des pâtes qui prennent plus de temps
absolument,
à cuire. Donc,
absolument.
Tu es presque à l'antithèse de l'attente consommateur. Je force le trait.
Tu forces le trait. Alors, parce que là, cette attente consommateur, elle n'est pas encore. Elle est plutôt sur les plus jeunes. Et je ne pense pas qu'elle est encore dans le dominant. Mais c'est une tendance de fond qui, quand même, elle a l'air d'être partie. Mais ouais, aujourd'hui, on a plutôt vocation à remettre l'accent sur ce moment-là, qui est de se mettre autour de la table, de passer un peu de temps pour cuisiner. Parce que, comme on se le disait tout à l'heure, c'est aussi redonner de la valeur à l'alimentation. Ce n'est pas que d'un point de vue économique. C'est sa place dans ta vie au quotidien. Voilà, moi, je suis quelqu'un qui adore cuisiner. Voilà, c'est des moments que je trouve riches et importants pour un équilibre, j'ai envie de dire, presque personnel. Mais ouais, non, pour l'instant, on est plutôt là. Mais on suit ce qui se passe. C'est pas le truc le plus emballant.
Deuxième sujet, avec le rachat de Cora Match par Carrefour et le dépeçage de Casino par Intermarché et puis Auchan, est-ce que la distribution française, à tes yeux, a terminé de se concentrer ?
Je ne pense pas.
Donc tu vois encore un mariage ?
Je vois encore des choses possibles. Je vois encore des choses possibles. Maintenant, je t'avoue qu'on est un peu tous perdus par tous ces mouvements, alliances, rachats. Donc voilà, je trouve qu'on est aussi dans une période très perturbante de ce point de vue-là. Donc oui, si pareil, est-ce que tu aurais été capable de dire il y a 3 ans que voilà, Intermarché et Auchan allaient faire une alliance, je pense qu'on ne l'aurait pas envisagé, ça l'est. Cora, Match, il y a 3-4 ans, la famille était encore très convaincue qu'elle pouvait faire son chemin tout seul. Qu'est-ce qui veut se passer demain? Moi, et tu vois, je trouve que c'est aussi une des leçons de ces dernières périodes, ces 3 dernières années. Planifier, prévoir dans nos jobs est devenu extrêmement compliqué.
Les alliances entre distributeurs pour acheter moins cher, bonne ou mauvaise chose?
Moi,
dès que qu'elles soient françaises ou européennes.
Mais non, mais moi, dès que tu me dis pour acheter moins cher, ça me gratte l'oreille.
Bah, ils le font quoi? Ils le font pour ça, non?
Donc ça me gratte. Parce qu'une fois de plus, je ne crois pas à un modèle où on tire vers le moins cher et les prix les plus bas. Je ne crois pas à sa durabilité dans le temps, à la fois d'un point de vue qualitatif et à la fois d'un point de vue économique.
Mais ce n'est pas sain que des acteurs économiques cherchent la performance par la compétitivité à l'achat. Pourquoi des industriels ne s'allieraient pas entre eux pour acheter leur packaging?
Nous, on ne peut pas, parce que nous, si on faisait ça, la DGCRF viendrait frapper à notre porte dès le lendemain. Alors, bien sûr que le prix est un élément du mix ou la compétitivité à l'achat, mais comme pour moi, je sais que si je vends n'importe quel prix, le lendemain, c'est un peu comme eux, là, ma part de marché, je prends une rouste. Mais ce n'est pas le seul, et je trouverais ça vachement réducteur qu'on réduit, et c'est un peu malheureusement le climat dans lequel on est, qu'on réduit la discussion sur que cet item-là, quel prix. Il y a un sujet de qualité, tu l'as dit, il y a un sujet de nutrition, il y a un sujet planète, il y a un sujet transformation digitale. Merde, si on ne traite pas tous ces points-là, on va tous, collectivement, je pense, au-devant de grands soucis.
Est-ce que c'est plus dur de négocier avec les enseignes françaises qu'avec d'autres enseignes? Toi qui as vécu la Scandinavie, qui a aujourd'hui dans ton périmètre d'autres pays que la France, est-ce que c'est objectivement plus dur de négocier avec les enseignes françaises?
Objectivement, et ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est l'évaluation mutuelle qu'on fait les uns et les autres sur le climat de négociation. Oui, non, tu as un des climats de négociation le plus rude qu'on connaît, nous, dans notre entreprise, de manière très globale. Je vais des US en Asie, en passant par effectivement ce que je connais, moi, sur l'Europe.
Et quand tu dois expliquer à tes actionnaires en Italie pourquoi en France c'est aussi dur, qu'est-ce que tu leur donnes comme explication?
Ah, parfois, ils nous prennent pour des fous. Moi, quand je dis à mon boss que j'ai fini mes négo le 31 janvier à 4h30 du matin, t'as pas de rationnel à donner. Il n'y a pas de rationnel là-dessus. Donc il y a à la fois, mes actionnaires, il y a à la fois un côté très admiratif du marché français, mais parce que voilà, il le considère avancé sur plein de sujets et il a souvent été moteur dans le développement de nouvelles choses au sein de l'entreprise. Donc il y a, une fois de plus, plein de belles choses. Et une très belle industrie, une grande distribution qui a longtemps été un modèle et qui est encore un modèle sur un certain nombre de sujets, la capacité à développer des catégories, la capacité à innover, etc. On a ce caillou dans la chaussure qui est la négo, les fameux 3-4 mois là, dans l'année, où on se pourrit avec un seul sujet qui est le prix.
Et... Il faudrait négocier tout le temps, une proposition de Dominique Schellcher par exemple.
Ouais, j'y crois pas.
Pourquoi ? Tu ne crois pas que ça soit souhaitable ou tu ne crois pas que ça soit possible ?
Non, alors je ne pense pas que ce soit souhaitable parce que si on passe notre année à discuter, on ne discutera pas des autres sujets. Et si on passe l'année à négocier prix, donc l'avantage effectivement du contexte légal français, c'est que oui, on a 3-4 mois où on va dire on se pourrit sur le sujet prix, mais au moins...
Mais tu as une date de fin.
Mais j'ai une date de fin et après on peut bosser ensemble. Tu vois, par exemple, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle l'avancée de la date butoir au 31 janvier. Parce que pour la première fois, on a eu des innovations qui arrivent au mois de mars, au mois d'avril en magasin. Et il fut un temps où on a négocié, globalement, tu négociais jusqu'au 31 mars. Tes innos, c'était, on va dire, allez, tu mettais en place tes business plans au mois de mai. Tu travaillais 7 mois. Moi, j'ai toujours dit à mes clients par le passé, notre plus gros axe de développement de chiffre d'affaires, c'est de travailler 12 mois ensemble. Et donc, non, je ne crois pas à ce principe-là de négociation sur 12 mois, parce que je suis convaincu qu'on ne discutera pas des autres choses et que ça nuira encore plus à déjà un climat qui est bien tout pourri pendant les 3-4 mois dont on parle.
Egalim 4, ça va changer quelque chose? Ou c'est une nouvelle loi après les précédentes et avant les suivantes?
Ouais.
Qui ne changera pas le fond de la négo?
Ouais, alors, je trouve ça toujours très perturbant. On vient d'à peine on a eu la loi de Crozet, donc j'ai envie de dire l'encre, elle est à peine sèche, qu'on est déjà en train de parler d'une nouvelle loi. Je ne sais pas ce que les pouvoirs publics et les autorités attendent d'un EGalim 4. Est-ce que ça va changer les négos? Je pense qu'on a fait la démonstration que, je ne sais plus, on a 8... Enfin, on a le contexte de négociation le plus encadré et le plus grand nombre de lois. Ce n'est pas pour autant qu'on a réglé nos problèmes fondamentaux. Donc non, je pense que malheureusement, culturellement, ce n'est pas ça qui va modifier demain les choses.
Pourquoi il y a une telle opposition? Est-ce qu'il y a trop de distributeurs en France? Est-ce qu'il y a trop d'indépendants qui sont des cow-boys dans la négo?
Non, alors, j'en suis la preuve vivante. J'adore cet univers, j'adore mes clients et j'adore être sur le carrelage et passer du temps avec mes clients.
Mais t'as peut-être un rôle en masochiste, hein?
Ouais, ouais, non, des fois un peu schizo parce que ouais, je crois qu'il y a un vrai souci de confiance. Il y a effectivement cette obsession du prix le plus bas, parce que cette guerre de part de marché qu'on retrouve, que potentiellement aussi on est dans un univers de grande distribution comparé à d'autres pays où il ne s'est pas beaucoup, comment dire, différencié. Ils sont globalement à peu près tout le monde est sur les mêmes thèmes. Donc ça, je ne pense pas que ça contribue au climat général. Et ouais, cette défiance-là, elle est assez insupportable. Alors que oui, une fois de plus, tu as 17 000 entreprises, potentiellement tu en auras toujours une dizaine ou une quinzaine qui se comportera mal, et puis ok, bah, qu'on deal avec eux. Mais franchement, tu vois, le sujet du prix, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je pense qu'on vit la même chose qu'eux. À partir d'un moment où un jour je fais le con sur mes prix, où je suis trop cher, la sanction, c'est le conso, hein. Et elle est immédiate, c'est la part de marché. Comme tu le lis, toi, dans ton distrait prix, quand il y en a un qui entre guillemets, dérouille sur son positionnement prix, le lendemain, tu le payes. On peut se faire confiance là-dessus. Est-ce qu'on pourrait se faire confiance là-dessus? Et sur chacune de mes catégories, j'ai 3-4 intervenants, j'ai de la concurrence.
Tu crois à ce que tu me dis ou tu crois pas, là?
J'y crois, non, j'y crois. Mais alors après, est-ce que des fois, je me dis, ouais, comme tu disais, est-ce que c'est masochiste, schizo, est-ce que c'est une utopie? Mais ouais, merde, qu'est-ce qu'on pourrait... On pourrait se faire un peu confiance et bosser tous les sujets. Il y en a plein qui feraient qu'on pourrait développer du chiffre d'affaires et du chiffre d'affaires profitable pour tout le monde. Même si j'enlève pas l'équation, le prix dans l'équation, bien sûr que c'est un élément important, mais de là à ce qui devienne unique et central, je pense pas que ce soit la bonne chose.